48 heures chrono, la friche, les 17, 18 et 19 mai.
Je vais pas vous raconter les détails, mais c'est sur la question de l'homosexualité, de la bisexualité, de la transsexualité, ce qu'on appelle aujourd'hui la question du genre.
Il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas dire, c'est-à-dire il y a des règles, on ne doit pas dire certaines choses des hommes, on ne doit pas dire certaines choses des femmes.
Quel genre ?
Bah genre, je
rivais avec Jacques, un bon copain.
Quel genre ?
Il n'y avait rien de sexuel entre nous.
Les radiolaborantins de la Grenouille invitent d'autres radiocampus pour animer 5 heures de direct nocturne.
Scientifique,
philosophe,
artiste,
autodidacte,
iconodule,
homo,
bi,
humain,
féminin,
masculin, des interviews, des reportages,
des chroniques et des musiques en tout genre,
mettront à mal
ou à femelle
les clichés pour mieux développer les transmutations des genres.
Une nuit du genre. Une nuit du genre.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nuit du genre, une nuit spéciale, où nous passerons en revue tous les clichés pour les classer, les déclasser, les surclasser, les mélanger, les déranger, en un mot, les dépasser.
Radio Grenouille, en collaboration avec les Radio Campus, ont le plaisir d'être tout près de vos oreilles, dans le cadre de l'événement 48 heures chrono qui se déroule actuellement à la Friche Belle de Mai à Marseille, une émission en toute intimité.
On est parti pour 5 heures en direct de 21h à 2h sur les ondes de la Grenouille, bien entendu. Mais également sur 10 Radio Campus de France. Paris a répondu à l'irrésistible appel du genre. Orléans, Clermont, Bordeaux, Toulouse, Brest, Rennes, Grenoble et Besançon se sont joints à la meute des campusiens en tout genre.
Une mention spéciale au Radio Campus d'Avignon, de Paris et d'Orléans qui, physiquement, nous accompagnent dans les studios de Grenouille ce soir. Nous avons une petite pensée envers leur famille.
Cette collaboration de Cervelle étudiante vous propose ce soir la photographe et cinéaste Émilie Jouvet qui portera un regard sur la figure féminine, le sociologue et spécialiste Éric Fassin dressera une cartographie du genre et Yann Min pour l'interview polygenre et transhumaniste, ainsi que le groupe de rock Demi Mondaine qui nous fera le plaisir d'être avec nous pour un live.
Mais également des chroniques genrées, des reportages dérangés, voire dégenrés, où on ne sait plus où on se trouve, et c'est bien là le problème. Et bien d'autres genres rares, un vrai marathon, amour, genre et beauté, je déclare la nuit du genre ouverte.
T'es une fille, t'as pas de shampoing.
Revendiquer un rôle qui est considéré comme inférieur, celui de la femme, peut être utilisé de façon révolutionnaire. Toutes les femmes ne sont pas des êtres frivoles et pouponnants. C'est tout.
Parce que les femmes ont du talent en cuisine.
Certainement pas.
On ne naît pas femme, on le devient.
Chers auditeurs, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur les ondes de la Grenouille. J'ai le plaisir d'être accompagnée par Emmanuel, Mélanie, Quentin et Julien. Nous serons vos animateurs et nous vous suivrons pendant toute une nuit, si ce n'est pas un rêve, je ne sais pas ce que c'est. Nous accueillons dans ce studio Julie de Radiolab Marseille. Bonsoir Julie.
Bonsoir à tous.
Qui va nous parler tout de suite des sociétés matriarcales. Julie, c'est à toi.
Exactement. Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que nous sommes dans des sociétés patriarcales, c'est-à-dire le pouvoir opère et par extension aux hommes. On retrouve d'ailleurs cela dans le bon vieux titre « Le chef de famille ». Pourtant, d'autres sortes de sociétés existent qui inversent ces valeurs, des sociétés féminines dans lesquelles le pouvoir appartient aux femmes, et plus particulièrement aux mères, ce que l'on appelle le matriarcat. Dans la mythologie grecque, on retrouve ce genre de société avec les Amazones, ces fameuses guerrières montant et combattant à cheval. Ces femmes appartiendraient à des sociétés des steppes comme les Scythes et les Sarmates. De leur union avec des étrangers, elles ne gardaient que les enfants de sexe féminin et elles brûlaient le sein droit de leurs filles pour faciliter l'exercice de l'arc et leur nom signifie d'ailleurs en grec « celles qui n'ont pas de sein ». Elles excluent la compagnie des hommes, elles n'en gardent certains que pour des travaux serviles. Beaucoup de héros grecs auront d'ailleurs affaire à elle, comme Achille, Héraclès, Thésée, mais à chaque fois le héros aime la reine, et puis comme par hasard il la tue. Et un mythe dit même que Thésée les aurait domestiqués, donc on voit bien que les grecs n'aimaient pas trop les sociétés matriarcales. La légende dit aussi qu'elle ne garde que les hommes mutilés, car ça augmenterait leur capacité sexuelle, l'infirmité empêchant les hommes d'être violents et d'abuser du pouvoir. Donc une idée à creuser les filles. Et au XVIe siècle, les explorateurs espagnols rencontrent en Amérique des femmes qui combattent et ils appellent alors le fleuve l'Amazone. Alors après le matriarcat légendaire, on va voir un peu l'historique de cet ordre des mères. Une théorie affirme même que ce serait le premier système familial qu'a connu l'humanité. Une hypothèse émise en 1861 par Bachofen, dont l'origine serait l'ignorance du lien entre l'acte sexuel et la reproduction. En fait, on pensait que les naissances venaient des esprits, quelque chose de transcendant, et que les femmes seules avaient ce pouvoir de créer et de procréer. D'où l'importance des déesses mères. Et des historiens affirment que le patriarcat existait en Grèce antique et qu'avec l'invasion de peuples du Nord qui ont amené la croyance en Zeus, ce système aurait été remplacé par le patriarcat. Alors, est-ce que c'est parce que les hommes ont eu peur justement du pouvoir féminin de donner la vie? Et quand ils ont du coup découvert leur paternité, est-ce qu'ils ont décidé d'enfermer les femmes pour pouvoir les contrôler? Voilà, c'est une question en tout cas qu'on peut se poser. On parle aussi de société matrilinéaire, c'est-à-dire l'affiliation par la mère, par exemple dans la société juive. C'est la mère qui donne l'appartenance au peuple juif. Comme autre exemple, on peut prendre le peuple iroquois. L'organisation sociale est matriarcale, matrilinéaire et matrilocale. C'est la mère qui détermine le lignage et les femmes possèdent la terre. Et après son mariage, l'homme emménage chez son épouse et ses enfants deviennent membres du clan de la mère. Une des dernières sociétés matrilinéaires pour terminer, ce sont les Mossou. En Chine, on les trouve au bord du lac Lugu avec plus de 30 000 individus. Et chez les Mossou, seule l'ascendance féminine est prise en compte et la transmission du nom comme des biens est exclusivement féminine. Chaque clan comprend plusieurs générations et vit sous l'autorité de la Dabou, c'est la doyenne de la lignée. Les hommes et les femmes ne vivent pas en couple, mais chacun dans sa famille d'origine. Et on voit un véritable balai s'opérer au coucher du soleil. En fait, les hommes vont passer la nuit dans la maison de leur amante et doivent rentrer chez eux avant l'aube. Donc les relations peuvent durer de quelques heures à des années. Donc c'est une vraie liberté sexuelle, une femme peut avoir plusieurs partenaires, car chez les Mossou, la fidélité n'est ni une vertu ni une contrainte. Et la plupart des relations amoureuses restent secrètes. Il n'y a donc ni jalousie, ni possessivité, ni violence sexuelle. La notion de père, par contre, est inexistante. Les enfants sont élevés par les oncles, les frères de la mère donc, qui remplacent le père. Un homme a des droits dans la maison de sa mère, mais aucun dans la maison de son amante. Et le gouvernement chinois a tenté plusieurs fois de les remettre dans le rang en leur imposant des réformes en faveur du mariage, mais rien n'y fait, leur culture perdure. Finalement, ces sociétés, en plus de remettre en question l'autorité du père et par extension l'autorité de l'homme, remettent finalement aussi en question le mariage et le complexe d'Œdipe, et leur maintien et leur sérénité nous prouvent que ça fonctionne plutôt bien.
Merci beaucoup Julie pour cette chronique historique. Finalement, pour commencer cette heure, chers auditeurs, vous l'aurez bien compris, qui sera dédiée aux femmes, les femmes toute une histoire. Merci Julie pour cette chronique. Vous pouvez également suivre cette émission sur Tumblr et sur Twitter, parce que la nouvelle technologie fait partie des Radio Campus. Vous pouvez donc suivre tout cela sur Nuit du Genre. Ce sera le mot de la soirée. Mélanie, une deuxième, nous sommes deux dans ce studio.
Exactement.
Te passe la parole.
C'était Mel M et Mel L ce soir sur Radio Grenouille. Donc on va continuer cette heure féminine avec un micro-trottoir que tu as réalisé, Mélanie. Et tu as posé donc la question suivante, un peu sexy et suggestive. Avez-vous un fantasme avec une femme?
C'était risqué. On écoute ça tout de suite. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que, c'est une petite question un peu délicate, mais vous êtes une femme, vous avez déjà eu des fantasmes avec d'autres femmes?
Oui, c'est une question un peu délicate, effectivement, mais oui, j'ai déjà eu des fantasmes avec d'autres femmes.
C'est une question qui pourrait être décomplexée, par exemple. Pourquoi on en ferait quelque chose de délicat?
Ah bah, oui, non, c'est sûr, c'est juste parce que je vous connais pas et que vous arrivez et que vous me posez cette question-là, quoi. En plus, avec un micro.
Et vous?
On est colocataire, donc on vient d'avoir une révélation.
Elle portait un pyjama jaune et depuis, on se dit avec ma meilleure pote, ah, ça doit vraiment être le pyjama jaune qui a tout tué entre nous.
Et non. Tristement hétéro.
Oui, moi ça m'est arrivé.
Est-ce que ça n'a été qu'un fantasme?
Non, ça a été une concrétisation qui a échoué.
Qui a échoué?
Oui. Oh. Et bien du coup, le fantasme s'est évaporé.
Ah, c'est en réalisant le fantasme que finalement...
En fait, on me l'avait mis dans la tête.
On me l'avait mis dans la tête?
Oui, c'est des amis à nous qui nous ont convaincus que nous étions faites pour être ensemble, alors nous étions amis.
Ah,
C'était la grande question de l'amour et l'amitié ici.
Ouais, c'est arrivé, mais jamais plus loin que ça, du coup.
Donc ça n'a été qu'une idée.
Qu'une idée, ouais. Pas mal. Qu'une idée qui m'a fait rigoler.
Oui, mais en rigolant sur ma copine. Sur Tachi, elle va se reconnaître quand on va lui dire, de toute façon, c'est bon. Hein. Je t'aime trop, je te désire à balle, et voilà. Voilà, si je devrais le faire ça avec Tachi. Hein.
Oui, j'ai déjà réalisé ces fantasmes-là, en fait. Au début, j'imaginais juste deux femmes, et après, je me suis surprise à m'imaginer moi avec d'autres femmes, et du coup, je me suis dit, bah, je vais pas laisser passer ça, et j'ai réalisé ce fantasme-là.
Faut pas mourir bête.
Exactement.
La question du genre n'est pas forcément un critère pertinent, en fait. C'est plutôt cette attitude-là.
Une attirance pour un être humain,
finalement. Ouais, voilà.
Oui, finalement. Et ouais, dans ce cas-là, la question du sexe ou du genre, comme tu dis...
Pas pertinente.
C'est super. Merci beaucoup.
De rien.
Merci.
Et on a eu des réactions très intéressantes. Merci beaucoup, Mélanie.
Ah, mais moi, j'ai une petite question, mademoiselle. Parce que là, on est entre femmes, on ne se connaît pas encore, et pourtant, on est dans la nuit de la femme. J'ai envie de vous poser la même question. Pourquoi on ne pourrait pas faire un micro-trottoir en studio ? Emmanuel, est-ce que tu as déjà eu des fantasmes avec une autre femme ?
J'ai plein de fantasmes avec d'autres femmes.
C'est chaud ce soir. Il n'est que 21h11 en direct de Radio Grenouille, et là, c'est déjà chaud. Donc, Emmanuel, oui. Et Mélanie ?
Non, je ne sais pas si j'ai envie d'en parler ce soir. Oui, bon, déjà réalisé un peu. Mais après, pourquoi pas dans les studios de La Grenouille ce soir, non ?
Ah, je pense qu'à 2h du matin, ça va être très chaud. On va juste se détendre un peu et faire descendre la pression, parce que ça commence à monter. En musique, je vous propose d'écouter le titre Woman, qui est une reprise de Néné Chéri, par Alex Hepburn, qui commence à monter sérieusement sur la scène internationale. On l'écoute tout de suite, c'est parti.
You gotta be fortunate, you gotta be lucky now. I was just sitting here thinking good and bad. But I'm the kind of woman that was built to last. They tried erasing me, but they couldn't wipe out my past. To save my child, I'd rather go hungry. Got all these wounds that just won't heal inside of me. And my blood flows through every man in this godless land that delivered me. I've cried so many tears, even the black can see. Woman, this is a woman's world. This is my world. This is a woman's world. For this man's girl, woman. There ain't a woman in this world, not a woman or a girl, that can deliver. I've cleaned and I've fed. And for my healing wits, I've been called a witch. I've crackled in the fire, now I've been called a liar. I've died so many times, I'm only just coming alive. Woman, this is a woman's world. This is my. And every child in this godless land that delivered me. I've cried so many tears, even the black can see. Woman, this is a woman's world. This is my. Now the
c'était Woman de Néné Chéri par Alex Hepburn. Vous êtes toujours sur Radio Grenouille. Vous nous suivez sur, sur nuitdugenre.tumblr.com ou sur Twitter avec le hashtag nuitdugenre.
Et on va écouter tout de suite une interview réalisée encore une fois par Mélanie qui n'a décidément peur de rien.
Et Emmanuel, on était deux, heureusement.
Et Emmanuel, pardon. Réalisée dans un parking.
Tout à fait.
Un lieu intéressant pour une interview. Vous avez rencontré donc Émilie Jouvet, photographe et cinéaste, qui questionne dans son travail les représentations de la femme.
C'est dans un parking souterrain, exactement celui du Vieux Port, qu'en compagnie de Mélanie, nous rencontrons Émilie Jouvet. Bonjour Émilie Jouvet.
Bonjour.
Alors, c'est un peu dans le cadre d'une émission qui s'intitule La Nuit du Genre qu'on t'interviewe. Donc on s'est dit, tiens, voilà, Émilie Jouvet qui, si on regarde rapidement la fiche Wikipédia, a fait un film, road movie, et puis une version plus souterraine qui s'appelle Porn Féministe.
En fait, j'ai fait plusieurs longs métrages et plusieurs courts métrages, mais le dernier long métrage s'appelle Too Much Pussy Feminist Slut in the Queric Show. C'est le titre de film le plus long de l'univers. Donc, Too Much Pussy, ça veut dire trop de chatte, hein, voilà. Traduction française, c'est tout de suite moins glamour. Et Feminist Slut in the Queric Show, donc c'est des salopes féministes dans le show queer. Too Much Pussy, donc c'est des nanas qui viennent. Alors il y a deux françaises, deux berlinoises et deux américaines. Ce sont des femmes qui ont travaillé sur la sexualité, en fait. Comment, en tant que femme, on pouvait donner son avis, son ressenti sur les questions de sexualité et de féminisme. Donc elles font toutes partie d'un mouvement qui s'appelle le féminisme pro-sexe, dans lequel je me reconnais aussi. Et elles ont aussi comme particularité de se dire queer. J'ai recruté un peu ces nanas parce qu'elles étaient toutes artistes reconnues dans leur pays pour ce qu'elles faisaient. Du coup, j'ai organisé une tournée pendant un mois en Europe. Donc on est parti de Paris, on est allé à Berlin, on est allé en Suède, on est allé aux Pays-Bas. On a fait tout un tas de villes et en minibus. Donc c'était vraiment la folle équipée et tous les soirs, elles faisaient des performances, des gros spectacles en fait. Voilà, donc ça et tout ça, moi j'en ai fait un film qui s'appelle donc Too Much Pussy et qui est sorti au cinéma, qui on peut trouver aussi en DVD. Et j'ai fait une deuxième version de ce film-là, qui est une version plus porno. Parce que en fait, pendant toute la tournée, elles ont eu plein de rencontres sexuelles, amoureuses, tout ça. Et donc j'ai tout filmé. Et pour qu'un film sorte au cinéma, en France, c'est interdit de passer un film avec des scènes explicites dans le cinéma français. Depuis que Virginie Despentes a sorti Baise-moi, ça a fait un gros scandale. Du coup, ils ont changé les lois. Donc maintenant, quand on veut sortir un film au cinéma, on est obligé de couper ces scènes-là. Et donc Too Much Pussy est un documentaire road movie qui est quand même explicite, mais interdit au moins de 16 ans. Mais donc il peut passer en salle. Et la deuxième version, qui s'appelle Much More Pussy, en fait, là, c'est vraiment toute la partie beaucoup plus porno, on va dire, où rien n'a été censuré. Voilà.
Quand tu dis porno, on va dire, par exemple, porno, c'est un terme que tu reprendrais ?
Ben, c'est porno parce que on voit des gens, on voit les filles clairement dans les scènes sexuelles qui sont pas mises en scène, puisque c'est du live. Mais voilà, c'est pas érotique là, c'est carrément.
Et par exemple, donc du coup, ce genre de film, on peut le voir où ?
Alors, Too Much Pussy, on peut le voir au ciné, on peut le voir dans les festivals, on peut le voir en DVD. Et Much More Pussy, il est passé dans des festivals, du coup, parce qu'il ne pouvait pas passer en salle. Donc là, il est passé dans un circuit alternatif de festivals. Et normalement, il y a un DVD aussi.
Alors, les festivals dans lesquels on peut voir c'est la version porno, comme je pense par exemple Pornfest, disons à Berlin, sont des festivals qui... Bon, ils ont quoi? Ils ont 5-6 ans, non?
Le Porn Film Festival de Berlin, ça a été le premier Porn Film Festival alternatif, indie porn en Europe en tout cas. Donc c'est... il date de 2006. Et c'est Jürgen Brüning qui a monté ce festival. Lui, son idée, c'était de réunir en fait tous les films justement qui contiennent des scènes sexuelles, ou que ça peut être des documentaires, comme des films d'animation, comme des films d'art, mais qui ne peuvent pas passer dans le circuit traditionnel à cause de ces lois, et qui ne sont pas uniquement juste des films à visée masturbatoire, on va dire, qui ont quelque chose de plus intéressant. Et surtout, son idée, c'était aussi de mélanger plusieurs sexualités.
Et c'est pas que des films queer ?
C'est queer majoritairement, mais il y a de tout. Il y a des films hétéro, il y a des films sur le SM, il y a des films. Il y a par exemple une section film drôle, avec des petits courts-métrages assez fun. Il y a des ateliers aussi, de bondage, c'est ouvert à tous, autant lesbiennes qu'aux gays, qu'aux hétéros.
C'est quoi être queer aujourd'hui ?
Aujourd'hui. Ça, c'est toujours la question piège. C'est difficile à expliquer queer parce que par essence, ça veut dire qu'il n'est pas dans une case déjà. C'est... À la base, queer, c'est une insulte. C'est un terme anglo-saxon. C'est une insulte pour... C'est tout ce qui n'est pas dans la norme. Alors, c'est un peu au même titre que sale PD ou quelque chose comme ça. Mais ça pouvait désigner donc des personnes qui avaient l'air pas hétéro, donc lesbiennes, gays, trans, machin. Ça peut aussi désigner des personnes qui sont pas habillées comme il faut, ou un corps pas dans la norme, trop gros ou trop maigre. Voilà. En fait, queer, c'était une insulte pour montrer du doigt quelqu'un qui a pas l'air dans la norme. Et ça a été repris en fait en termes de fierté. Et donc il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans ce terme-là. Et c'est aussi un petit peu c'est nourri du féminisme aussi par rapport au genre. Donc ça déconstruit c'est un peu cette histoire de genre par rapport au mouvement LGBT aussi, qui est assez genré. Les gays, les lesbiennes, il y a plein de gens qui se retrouvent pas non plus dans ces cases-là. Après, ça se veut dire moi je suis queer, je peux être biologiquement une femme, mais en fait me sentir homme, et puis être gay, et puis demain j'aurais envie d'être lesbienne. Enfin, ça correspond plus à une fluidité. En fait.
Et est-ce que tu te dirais, te définirais artiste militante ?
Oui, artiste militante. Artiste déjà tout court, mais c'est vrai que je m'inspire beaucoup de mes convictions politiques, donc militante.
Parce que militant, pour toi, c'est avoir une action, un impact sur la société ?
Militant, c'est... C'est avoir des convictions et essayer de les faire partager au plus grand nombre. En fait.
Par la photo, par exemple.
Par la photo, par les films. Essayer de faire passer des messages ou faire découvrir des choses. Moi, ce qui me touche aussi, c'est quand je fais des portraits ou des photos. Je prends beaucoup en photo des femmes. Et ce que j'aime bien, c'est quand ça allie justement la force et la fragilité.
Il y a une photo qui nous a beaucoup plu, à tous les deux. Deux filles qui nous font face, debout, très joyeuses, derrière un décor de ruines, ayant des sparadraps, une ayant des sparadraps sur les seins et sur le sexe.
L'une a des talons, l'autre a des baskets,
ouais.
Un peu ce schéma.
L'une a un short, l'autre... C'est extraordinaire cette image.
Cette image, c'est deux de mes actrices de Too Much Pussy. Donc il y a Judy Milks, c'est celle qui a les petits scotch noirs, talons aiguilles. Et Ena Metzgerey, qui est DJ, qui est berlinoise, qui jouait aussi dans le film. Et Ena, donc la DJ, elle, à chaque fois qu'elle mixe, elle mixe comme ça dans cette tenue, c'est-à-dire qu'elle se fabrique une sorte de mini bustier en croix avec du gros scotch noir. Et c'est un peu sa marque de fabrique, elle est connue comme ça pour mixer tout le temps. Donc c'est super, c'est vraiment un personnage, elle a le crâne rasé, elle a un très très beau visage, assez enfantin et en même temps un côté super androgyne. Et Judy Mix à côté, c'était la plus jeune actrice de Too Much Pussy. Elle a 21 ans, elle est un peu plus, mais à l'époque elle avait 21 ans. Et c'est une nana qui est très très engagée, très militante et qui est actrice porno.
On a peut parler du désir au fond, alors qu'il y a beaucoup de désir dans ces photos quand même. Peut-être que aussi un des enjeux de cette question du queer, ou en tout cas de la critique du genre, c'est la possibilité d'une certaine libération des désirs. Non ?
Oui, c'est vrai. C'est le désir, c'est un moteur, un des principaux moteurs en fait dans mon travail.
Pendant longtemps, les hétérosexuels, ils dominent toujours, mais disons qu'ils avaient le monopole absolu sur les représentations du désir. Puis les années 70 et les années 80, où la communauté, disons, homosexuelle, gay, on va dire, a eu aussi un espace de représentation des désirs. L'espace de représentation des désirs lesbiens, c'est assez neuf, au final.
C'est moins neuf qu'on ne le pense, ça existe depuis très longtemps, mais le problème avec les représentations des images de lesbiennes ou bi, c'est qu'en fait elles sont très souvent censurées, parce que les œuvres et les artistes lesbiennes ont très peu accès aux lieux d'exposition, aux galeries, à tout ce qui est art, pas sponsorisé mais financé. Ça vient d'une part du sexisme, parce que déjà dans le monde de l'art il y a très peu de femmes. Par exemple, il y a ce groupe qui est génial qui s'appelle les Gorilla Girls. Ce sont des artistes américaines qui font des affiches comme ça pour dénoncer. Par exemple, les plus gros musées new-yorkais, il y a 95% d'artistes masculins, et par contre il y a 90% de personnages nus, ce sont des femmes. Donc en fait, les femmes sont nues au mur, mais les artistes qui sont sélectionnés, ce sont des hommes. Donc ça se répercute forcément sur les représentations lesbiennes, puisque étant des femmes, elles ont déjà plus de mal à accéder à montrer leurs travaux. Et il y a aussi, en plus, bien sûr, l'homophobie qui fait que pendant très longtemps, on ne pouvait pas vraiment montrer des images de femmes entre elles. Jusqu'à, d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est pas encore terminé. Mais moi, je me rappelle, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, 15 ans, quand j'étais étudiante, c'était très, très dur. Je travaillais déjà sur ce thème-là et c'était extrêmement dur de montrer mes travaux, d'avoir le soutien des profs. Ça commence un petit peu à évoluer, mais c'est dur, c'est long. Il y a sexisme, homophobie qui font barrage. En fait.
Justement, ça peut donner une image un peu communautaire de ces œuvres-là. C'est pas forcément le cas, justement, dans les photos que tu exposes. Je trouve que ça peut parler à tout le monde, peu importe son orientation sexuelle ou son désir, justement, parce qu'il est malléable. Et pourquoi ? Comment, à ton avis ?
On parlait de portraits tout à l'heure. Je crois que il y a quelques images qui représentent deux femmes ensemble, mais c'est finalement assez rare dans le lot. Donc, c'est surtout des portraits de personnes. Alors, de tout style, des femmes très masculines, qui ont vraiment un certain type de beauté qu'on voit pas souvent, mais qui justement sont hyper marquantes et les gens sont séduits en fait par ce genre de beauté qui est pas dans les normes. Il y a des nanas au contraire hyper féminines, mais dans l'ultra féminité, et surtout des personnes qui ont souvent une attitude assez libre, un peu rock'n'roll, et ça je pense que ça peut attirer, ça peut plaire un peu tout le monde.
Ah, Je vous propose, madame le ministre, un autre fiefé miso. Un autre fiefé miso, Louis Ferraud, de la haute couture.
Est-ce que vous avez quelque chose à leur reprocher?
J'ai tout à leur reprocher. J'ai un paquet de trucs à leur reprocher invraisemblables. Elles sont soigneuses quand il ne faut pas être soignées. Elles sont débraillées quand il faudrait être très habillées. Elles sont inconsistantes quand il faudrait être consistantes. Et vice-versa. Elles sont tendres quand il leur faudrait être dures et dures quand il leur faudrait être malignes. Elles sont incompréhensibles. Je suis l'homme qui veut au milieu des femmes et ce que je leur reproche, c'est finalement de ne pas les comprendre. Je comprends rien. C'est pour ça que...
Alors ça c'est un reproche, elle marche à contre-temps. Mais pourquoi d'après vous?
Elle marche à contre-temps. Pourquoi elle marche à contre-temps?
Parce que ce sont des femmes?
Parce que... oui, parce que ce sont des femmes, je crois.
Merci à Emmanuel et Mélanie pour la réalisation de cette interview d'Émilie Jouvet. On est toujours sur Radio Grenouille et en direct sur Radio Campus Besançon, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Grenoble, Orléans, Paris, Rennes et Toulouse. Et on reçoit tout de suite Julien qui remplace Mélanie.
Oui, qui remplace une
avec
voix...
Avec ta grosse voix.
Oui, une voix d'homme à la fois à la place d'une voix de femme et qui ne dit que je ne suis pas une femme. En tout cas, je suis lesbienne. Et tout de suite, on retrouve donc Emmanuel qui va nous parler des violences faites. Les violences de filles, tout de suite.
Chères auditrices, bonsoir. Bien que le plaisir et la créativité liés au genre féminin existent, par petits bouts, tous les jours et moins rarement qu'on voudrait nous le faire croire, difficile pour moi de parler de féminité sans parler de violence. Parce que j'aurais pu vous parler de tout un tas de clichés, mais en y réfléchissant bien, comme le dit le mystérieux Enid Boussemi, le féminin, j'y crois pas vraiment. J'ai pas envie de faire une chronique glamour qui expliquerait que mettre du vernis c'est un truc de fille, du tout. Bon, voyez-vous, chères auditrices, en ce moment je suis vénère, pas juste comme ça pour le plaisir parce que je m'ennuie ou que j'ai des problèmes d'hormones. Non, en fait, il se trouve que je suis vénère hypersensible depuis toujours et particulièrement depuis qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait que je porte un soutien-gorge. Difficile de faire une chronique qui combine violence, genre et féminité sans tomber dans la paraphrase de tous les blogs féministes tronçonneuses et surtout sans exhiber une énorme et à mes yeux dangereuse pancarte « Victime ». J'aurais pu parler de tout ce qui se passe tous les jours entre le métro, le travail, le bar du coin, de cette violence quotidienne faite d'un milliard de petites choses qu'on assimile, sagement, et qui nous assène à coups de marteau que d'abord on a une chatte et qu'après, éventuellement, on est des gens. J'aurais pu compter le nombre de miaulements, de sifflements, de « jolie », de « mademoiselle » et « connasse, je te parle !» J'aurais pu préparer un argumentaire, un objet pédagogique à l'usage de tous les hommes qui croient te faire plaisir comme ça. J'aurais pu parler des manières... dont j'aimerais souvent répondre à cette violence par la violence, mais j'ose pas parce que finalement on m'a pas vraiment appris à me battre, on m'a plutôt appris à avoir peur. J'aurais pu profiter de ce micro pour juste articuler un « ferme bien ta gueule connard et range ta putain de bite », juste pour l'avoir dit, juste pour le plaisir. J'aurais pu parler de la violence existentielle de ce jour où en traversant la rue on m'a dit « t'as cru que quoi ?» avant de me cracher dessus. Parce que franchement, là, j'ai plus trop su ce que je croyais. J'aurais pu parler de violence institutionnelle qui fait que je me ferais sûrement embaucher parce que je suis blanche, jolie et parce que j'ouvrirais sûrement pas trop ma gueule parce que je suis moins payée que mon collègue. Collègue que par ailleurs, on aura tendance à plus prendre au sérieux et à confier des responsabilités plus importantes. Outre la violence politique de savoir que si demain je me fais sexuellement agresser et que je trouve le courage de porter plainte, il y a environ 75% de chances qu'on me demande si bon, je l'ai pas un petit peu cherché. Violence ordinaire de me dire que mon égal sans eux jouit de libertés qui sont sans cesse mises sous condition. S'habiller comme on veut, mais pas trop pupute. Sortir, mais pas rentrer toute seule. L'ouvrir, mais bon, pas trop, hein. Et chier dans la colle, mais alors vraiment pas trop longtemps. J'aurais pu vous parler de violence intime et du moment où je me suis entendue dire, avant de fermer la porte en partant, fais attention à toi, hein. Pourquoi ? Bah, je sais pas. J'aurais pu parler de ce bain, je sais pas, qui veut juste dire, bah, pour le principe qui lui-même dit que parce que tu t'apprêtes à circuler dans l'espace public, que t'as une chatte et qu'il est 4h du mat. Enfin, j'aurais aimé vous parler de ce putain de problème, ce monstre divisionnaire et individualiste qui nous isole les unes les autres, mais là, je friserai le dogmatisme. Quand même, ça m'aurait bien plu d'ouvrir le dialogue sur cette violence de classe féminine, celle qu'on s'auto-inflige à chaque fois qu'on associe féminin et futile, qu'on superglute sain et féminité, qu'on pense à un cadeau doux, rose et domestique pour sa petite nièce ou qu'on construit un Tumblr qui titre « Je suis une vraie fille ».
Comme si le principe de solidarité ne pouvait pas résister à cette barrière entre les vraies filles qui jouent le jeu et les autres. Comme si on n'était pas déjà assez emmerdés. J'aimerais vraiment en parler, girls, de tous ces outils qu'on peut mettre en place, de toutes ces choses qu'on partage sans se le dire, de toute cette force qu'on pourrait trouver si on réalisait chacune qu'on est un peu quand même dans le même wagon et qu'on acceptait d'en parler pour défoncer le conducteur et mettre en train le train en marche. Étendard de chat, poney rose et point levé, beaucoup d'amour, chères auditrices.
Merci beaucoup,
j'ai
Emmanuel.
J'ai peut-être y aller, moi, je sais pas.
Ça te fait peur
tension,
un peu, Julien,
oui, ça c'est...
Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce billet d'humeur quelque peu énervé, mais qui finalement avait le mérite de dire les choses clairement. On va faire une petite pause musicale avec Cathy Berberian, une reprise qui reprend les Beatles avec Girl.
Is there anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. A girl, girl. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. A girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, 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 girl, girl. Girl, oh girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, ooh, ooh.
Féminisme. Nom masculin, mouvement revendicatif ayant pour objet la reconnaissance ou l'extension des droits des femmes dans la société. C'est la définition du dictionnaire de l'Académie française, 9e édition, tout un programme. Effectivement, le féminisme est une double chose, à la fois un mouvement et une théorie. Un mouvement social pour revendiquer des droits et une théorie. Et il a trois âges, si l'on peut dire. Un premier âge qui est très long, entre les philosophes du XVIIIe siècle et les suffragettes du début du XXe siècle dans les démocraties occidentales. Un deuxième âge qui est l'âge des mouvements de libération de la femme des années 60. Et un troisième âge qu'on appelle maintenant le queer mouvement ou le post-féminisme. Alors, premier âge, c'est à la fois des théoriciennes, mais on ne les connaît pas. Elles se cachent, elles sont cachées derrière les hommes qui théorisent à haute voix. Et ce sont aussi des femmes politiques comme Olympe de Gouges qui revendiquent le droit de monter à la tribune et pas seulement à l'échafaud, puisque les femmes peuvent le faire, et d'avoir des droits en tant que citoyennes au pluriel et en tant que femmes au pluriel. Deuxième temps de ce mouvement féminisme, les années 60, les revendications de libération sexuelle, du choix dans l'orientation sexuelle, de la maîtrise de la fécondité et du choix « je fais des enfants quand je veux, si je veux ». Et ce mouvement-là, voilà, justement, est dans cette tension du féminisme qui est une tension entre désir d'avoir des droits identiques, neutres aux hommes, et les revendications de droits spécifiques. Et puis, troisième temps du féminisme, hein, le féminisme d'aujourd'hui, le post-féminisme, le queer. Il ne s'agit plus de ne pas être réduit à son sexe biologique, c'est-à-dire à ses critères de reproductibilité par l'utérus, mais il faut désormais considérer que le genre est aussi une construction et que être femme, ce n'est pas seulement un devenir, mais c'est un devenir impossible, et on est toujours plus ou moins femme, plus ou moins homme. On est dans la performance, telle une drag queen qui imite mieux que nous, tous les jours nous le faisons aussi, en nous maquillant avant d'aller travailler, ce qu'est être une femme dans une image qui est une image toujours à reconstruire.
C'était le mot d'Hélène, la minute savante que l'on retrouvera tout au long de l'émission comme de petites surprises. Vous êtes toujours sur La Grenouille dans 10 villes de France. Vous nous suivez sur nuitdugenre.tumblr.com. On est bien et Romain va nous parler de compositrice de musique.
Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour voir une femme devenir compositrice. Il s'agit d'Elisabeth Jacquet de la Guerre. À l'époque, il n'est pas rare de voir une femme pratiquer un instrument de musique, en amateur, dirons-nous, en raison de son éducation. Mais de là à avoir une carrière de musicienne, le gouffre est comme Claude, béant. Imaginez un peu si Mozart était né femme et désœuvré de surcroît. Allez hop, aux oubliettes, Wolfgang. En parlant d'enfant prodige, attardons-nous un peu sur une compositrice au destin brisé, Fanny Mendelssohn. Ce nom vous parle peut-être car il s'agit de la sœur du plus classique des compositeurs romantiques, Félix Mendelssohn, qui lui, contrairement à sa sœur, a eu une destinée exceptionnelle. Tous deux sont nés à Hambourg et issus de bonnes familles, Fanny et Félix reçoivent la même éducation musicale, de fort bonne facture, et tous deux montrent les mêmes qualités hors du commun pour la musique. Malheureusement pour Fanny, il n'est pas très bien vu chez les Mendelssohn de voir une femme devenir rockstar. Leur père, Abraham, fit comme le roi Salomon. Il trancha le 16 juillet 1820 dans une lettre qu'il adressa à sa fille, alors âgée de 15 ans. Ce sera Félix qui sera dans la lumière. Aléa Jacta Est. Toute sa vie, elle cacha son chagrin et appliqua les conseils de son père à la lettre et devint en quelque sorte un impresario pour son frère, qui paradoxalement vouait à sa sœur un amour sans bornes. Mais tout de même, il resta fidèle à la morale de son père. Fanny se consolait en produisant des concerts privés pour ses amis. Et à la question « a-t-elle composé ?», je vous réponds oui, plus d'une centaine d'œuvres, mais qui ne furent jamais jouées en public. Enfin, pas sûr. Un jour, dans sa grande bonté, Félix accepta d'incorporer quelques œuvres de Fanny dans une représentation à Londres devant sa grande amie, la reine Victoria. Mais il ne disa pas que les œuvres n'étaient pas de lui. En même temps, il faut imaginer la honte qu'aurait eu Félix à présenter une œuvre créée par une femme. Bien entendu, la reine Victoria a été conquise par ce que nous sommes en train d'écouter, le saltaretto d'un lied de Fanny. Mais ce qui devait arriver arriva. Fanny meurt d'apoplexie le 14 mai 1847 à Berlin. Ironie du sort, 6 mois plus tard, son frère Félix meurt lui aussi. En grande partie à cause de son chagrin. Il ne s'est jamais remis du décès de sa sœur. En fait, Mendelssohn ne s'est jamais pardonné d'avoir muselé sa muse et d'avoir laissé dans l'ombre de son talent un génie plus grand que le sien. Et il s'appelait Fanny Mendelssohn.
Merci beaucoup Romain pour ce joli portrait. On reste dans la musique, mais on change de genre, ça tombe bien, avec Sophie et Clémence qui vont nous parler des femmes dans le hip-hop. Et ça arrive donc tout de suite. Comment ça va?
Bonsoir, bonsoir. On est sur Radio Grenouille, ce soir importé d'Avignon, de Radio Campus Avignon.
Avec Clémence.
Clémence et Sophie. On est là ce soir pour vous parler du minou du hip-hop, soit le hip-hop au féminin. J'aimerais commencer par vous faire un petit check-up rapide Le hip-hop qui est donc arrivé dans les quartiers de Brooklyn avec principalement les latinos et les blacks. Un milieu plutôt masculin, mais qui, au fil du temps, s'est féminisé. Mon premier artiste que j'aimerais vous présenter, c'est Lauryn Hill. Vous l'avez sûrement connue avec les Fugees dans ses débuts. Aujourd'hui, malheureusement, elle ne va plus très bien. Elle va rentrer en prison pendant 3 mois pour quelques problèmes d'impôts. Ça peut arriver. Et dans le même style ?
Dans le même style que Lauryn Hill, on a donc la nouvelle Akua Naru, ou Akua Naru, comme on veut, donc qui est toute nouvelle sur la scène hip-hop. Elle sort ce mois-ci son 3e album. Et dans une interview pour Jacker Magazine, elle nous explique que les femmes dans le hip-hop étaient plus présentes avant. Maintenant, elles ont plus de mal à se faire une place. Soi-disant, Internet pourrait les aider. Mais Akua tient à ne pas jouer de sa féminité pour vendre son cul, en quelque sorte. Elle préfère, je cite, « rapper dans un baggy ». Elle supporte pas du tout la vulgarité.
La vulgarité, chacun l'utilise à sa façon. Je vais pas... Non, en fait, non. Je vais certainement pas parler de Nicki Minaj. On va plutôt parler de Creshawn et Iggy Azalea, qui, elle, mise tout sur le vulgos, que ce soit autant dans le style vestimentaire, dans les paroles ou dans l'attitude sexy trash. Ma foi...
Dans le style trashos, là, pour le coup, on a Azalea Banks avec son style, avec son titre, pardon, 212. Elle utilise plutôt des paroles vraiment, pour le coup, j'ai envie de dire féministes, parce qu'on a l'habitude d'entendre dire « c'est vulgaire les gros mots sortis de la bouche d'une fille, oh là là, c'est vulgaire ». Alors là, pour le coup, elle ose casser le cliché. Par exemple, je vais dire des paroles. Donc « ta meuf va te raser les couilles et aller et celle de toute ta bande. T'es obligé de te brûler la queue parce que ta meuf ne veut pas la sucer et elle préfère me lécher la chatte ».
Quel beau programme,
sympa,
c'est sympa. Dans le genre paroles féministes, un petit peu moins trashos certes, on va avoir un morceau de Mia qui a fait pas mal de bruit autant au niveau visuel qu'audio.
Tout à fait.
Voilà, les fast die young bad girls do it well.
Super,
c'est
accent.
Une belle leçon de morale, je trouve. Donc Mia...
D'ailleurs, ce clip-là a été réalisé par Romain Gavras, le célèbre réalisateur.
Un grand célèbre.
Voilà. Et donc, dans ce clip-là, il ne voulait pas du tout qu'on ressente la dualité entre les mecs et les filles. Il trouve que c'est un débat saut 90. Il préfère un clip plutôt fédérateur où on fait le mélange des genres et pas du tout, on ne voit pas de supériorité. Il n'a pas envie de faire un clip qui ait une portée sociale.
C'est d'ailleurs assez intéressant dans le hip-hop féminin, la réinterprétation des codes visuels hip-hop qui sont faits dans les clips. Il n'y a plus de grosses bagnoles et de grosses putes qui se trimballent en petite tenue. Mais les codes sont réinterprétés. Par exemple, dans le clip de Mia, il y a des grosses bagnoles, mais c'est plus dans la performance, dans le spectacle, et c'est plus du tout un étalage de pognon. Et dans le même genre... Bon, je vais vous parler de quelqu'un. J'ai dit que je ne parlerais pas de Nicki Minaj, mais il faut quand même aller dans le vendeur. Je vais vous parler de Beyoncé, qui sort un album très bientôt. Et donc, elle a fait un morceau qui s'appelle Run the World, qui est clairement féministe, féminin, où elle dit que les femmes doivent prendre le pouvoir sur les hommes, et avec un clip hyper spectaculaire où les femmes en guerrière attaquent les hommes et prennent le dessus.
J'adore.
J'adore. Et à côté de ça, il y a Bow Down, où elle est là, ouais, j'ai une super carrière, où elle piétine un peu ses fans en faisant la grande diva. Autre morceau d'ailleurs qui s'appelle Diva, justement, où dans le clip, elle danse comme un bonhomme, alors que c'est une meuf hyper torride, hyper sexy. Et le décalage entre les deux, c'est assez intéressant, mais ça amène à un certain questionnement,
voilà. Donc, est-ce que la masculinisation des femmes est importante pour se faire une place dans le milieu hip-hop, Sophie ?
Eh ben, c'est une excellente question. Mais
quelle est l'utilité, justement, à revendiquer un hip-hop féministe ?
Bon, on pourrait conclure en disant que l'importance de l'existence du hip-hop féminin, c'est justement de contrebalancer l'hyper-machisme du milieu. Les deux s'équilibrent l'un l'autre, que ce soit dans l'extrême féminité ou dans l'extrême masculinité.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas de question d'acceptation ou de difficulté de la place des femmes dans ce milieu. Mais au contraire, c'est une question de fierté. Que ce soit géographique avec le débat East Coast-West Coast, au niveau du couleur de peau, au niveau des genres féminins-masculins, le hip-hop de ce style musical, c'est surtout une question d'identité.
Oh là là là. Identification.
D'identification, de fierté et de représentation. C'est le jeu du hip-hop et c'est pour ça qu'on l'aime. Et que ce soit féminin ou masculin, peu importe.
Eh bien, merci Sophie, merci Clémence pour cette chronique. Je crois que Julien et Romain sont de moins en moins à l'aise dans ce studio. Ça a l'air un peu compliqué pour eux à gérer. On va passer du côté du théâtre, on va quitter un peu la musique pour découvrir la compagnie CTA, pardon, on m'a dit de bien le dire, CTA, une interview réalisée par Julie.
Anne Deval, bonjour. Vous faites partie de la compagnie CTA. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps votre compagnie ?
Alors, nous sommes une compagnie de conte musical. Donc, on va utiliser l'oralité et toutes les techniques du conte pour raconter l'histoire. Et on s'est un peu spécialisé dans l'histoire qu'on ne raconte pas à l'école. À l'école, on a un peu tendance à nous faire croire ou à ne pas nous dire en fait que c'est juste un point de vue et que ça va être le point de vue des vainqueurs, de ceux qui ont fait les guerres, qui ont écrit les lois. Et donc du coup, on se place jamais du côté ou des vaincus ou des anonymes ou des sans voix, et notamment par rapport aux femmes. Ou à l'école, ben on voit quelques femmes, mais ça va être des êtres exceptionnels qui sont extraordinaires. Et on ne parle jamais en fait de tout le travail anonyme qui est fait, notamment dans toutes les luttes. La Révolution française, on en parle un peu, que c'est les femmes qui vont chercher le roi, qui vont réclamer du pain. Voilà, on en parle un peu. À la Commune de Paris, il y a Louise Michel qui est une figure qui est très connue, mais on ne parle pas de toutes les autres derrière, qui ont monté l'Union des femmes. Les femmes n'ont pas toujours été considérées comme des êtres humains à part entière. Elles ont toujours été considérées comme des mineurs, donc au niveau de la loi, juridiquement, elles n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Et du coup, dans l'histoire, elles apparaissent pas.
Du coup, dans vos créations, comment vous montrez la place de la femme et comment vous mettez en lumière justement cette place qui est sous-estimée ?
Bah, ça, souvent en parlant de destin individuel. Et donc là, si je passe sur le spectacle qu'on a, Strange Fruits, qui est donc sur la lutte des droits civiques aux États-Unis, puis notamment mettre en lumière là dans ce spectacle le fait que on utilisait les mêmes méthodes pour soumettre les femmes et les esclaves. Et c'est là aussi où on se rend compte que bah, dans toute l'histoire du boycott, que beaucoup de gens attribuent à Martin Luther King, en fait, à la base, c'est le Conseil politique des femmes qui y a pensé, qui a initié le mouvement, qui a lancé les tracts, en fait, pour appeler au boycott le 5 décembre. Et après, Martin Luther King qui s'est emparé du mouvement et qui a permis, en fait, d'insuffler suffisamment de force et de courage pour que les gens s'organisent et faire durer le boycott pendant 380 jours. Nous, notre travail, c'est bon, bah, puisque ces histoires passent à la trappe, comment on fait pour redonner aussi une histoire aux femmes ? On pourrait imaginez que les femmes n'ont pas d'histoire, alors que les femmes ont toute une histoire juste qui n'est pas connue, qui n'est pas reconnue. C'est tout ce souvenir en fait qu'on a été dans une position d'esclavage, qu'on nous a donné quelques outils de liberté, que juridiquement maintenant on commence à vraiment être libre, mais que c'est pas parce qu'il y a une loi qui est inscrite que ça devient un comportement culturel. Et que bah, maintenant que les choses ont changé, que juridiquement on n'est plus comme des esclaves, il y a des vieux restes. Et que par l'histoire des ancêtres, je trouve que ça peut donner du courage. Et je dirais que les femmes se sont souvent plus battues pour leurs frères, leurs maris, leurs enfants, tout ça, que pour elles-mêmes. C'est très clair, c'était tant que l'esclavage n'est pas aboli, on ne va pas réclamer nos droits. Parce que ça, c'est la priorité. Et après, ce sera un tremplin pour nous pour pouvoir réclamer nos droits.
Quand est-ce qu'on peut vous retrouver pour voir vos créations prochainement ?
Donc le 8 juin à la Salle Gueule, on joue Drôle de France. Donc c'est un concert sur des morceaux de l'histoire de France, où on raconte l'histoire populaire de France, certains événements où le peuple a réussi à prendre son pouvoir en main et à gagner certaines choses vraiment très belles. Et du coup, rappeler le combat des ancêtres, rappeler que toute l'humanité a passé son temps à essayer de rester humaine face à l'inhumanité.
Sous les cyclones, sous les flots ou dans la fosse commune.
Vous prenez la pilule, vous êtes tranquille.
Vous prenez une jeune fille, orpheline et vertueuse.
Les jeunes ont des rapports précoces, fréquents.
Ça ne se fait pas à la main, ce n'est pas possible.
De nombreux partenaires, c'est vraiment un problème.
Vous la faites succomber, pas trop vite seulement, dans les bras d'un jeune homme beau et riche.
Nos enfants peuvent être, à n'importe quel moment, contaminés par n'importe qui. Et contaminés à leur tour par le supermarché.
Bon Dieu !
C'est
C'était la compagnie CTA au micro de Julie pour la nuit du genre. Et vous êtes toujours sur Radio Grenouille à Marseille, mais aussi sur Radio Campus Besançon, Radio Campus Bordeaux, Radio U à Brest. On salue tous les Brestois. On est sur Radio Campus Clermont-Ferrand, Radio Campus Grenoble. On salue aussi les Orléanais puisqu'ils nous écoutent sur Radio Campus Orléans, Radio Campus Paris avec les Parisiens champions en titre.
C'est quoi ce Paris comme ça?
Non, non, j'ai rien. Radio Campus Rennes, bien sûr, et Radio Campus Toulouse. On vous embrasse tous. Et on est ensemble jusqu'à 2h pour du direct et jusqu'à 5h30 pour une nuit complète du genre. Ça va les filles, on est bien là entre meufs, non?
On est super bien.
Ah, ça fait plaisir. On va écouter tout de suite un morceau. Hein, je vous propose d'écouter une chanson. Ça s'appelle Le jeu du téléphone. C'est une sélection de Dr Zoom, résident de Grenouille. Le jeu du téléphone interprété par Natasha Snitkin. Et c'est une reprise de Music to Watch Girl By d'Andy Williams. C'est très 60s, vous allez voir les filles. Ça fait penser un peu à la condition féminine des années 60.
Mad Men.
Du téléphone, il suffit d'appeler dans la nuit n'importe qui. Bonsoir, c'est moi, devine qui je suis. Tu ne sais pas, mais voyons réfléchir. Et l'on invente des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. Quand on questionne, on appelle ça le jeu du téléphone.
Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ah non, ce n'est pas Jacqueline. Ah, ce n'est pas Suzy non plus. Ah?
C'était le jeu du téléphone de Natasha Snitkin. On est toujours en direct sur Radio Grenouille. Et on va recevoir pour cette fin de l'heure attribuée, réservée aux femmes ce soir. On reçoit Romain, ça tombe bien, un homme pour terminer l'heure de la femme. C'est plutôt rigolo. On laissera donc la place ensuite aux hommes avec plein de chroniques, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir aussi, effectivement.
Beaucoup de testostérone, de poils.
Tout ça, de sueur, enfin des choses assez sympathiques. Et d'abord, donc, on écoute Romain avec son flash de désinformation.
Bernard-Henri Lévy, au cœur d'un scandale, le philosophe s'est illustré hier soir sur Twitter par des propos misogynes. BHL s'est approprié la sentence suivante de Jean-Jacques Rousseau. La masse populaire, c'est comme une fille, ça doit apprendre beaucoup de choses, mais seulement celle qui convient à son savoir. Et moi, chez les socialistes, mort de Robert Hue, antisémitisme au Front National, les réactions ont été nombreuses au sein de la classe politique. Bernard-Henri Lévy explique son geste par sa volonté d'instaurer une phallocratie pérenne et clairement affichée, ainsi que son ras-le-bol de voir le français moyen défiler dans la rue, alors que le bosniaque ou le libyen meurt de faim. La barbe, c'est le message qu'ont délivré une dizaine de féministes postichées lors d'une représentation de la comédie musicale Robin des Bois hier au Dôme à Marseille. Les activistes ont bravé le dispositif de sécurité et sont montées sur scène en pleine représentation pour protester contre l'omniprésence des hommes dans les légendes médiévales. Selon Patricia Gérard, la porte-parole du mouvement, Marianne n'aurait qu'un rôle de faire valoir alors qu'elle devrait jouer un rôle central dans l'œuvre. Vincent Moscato aimerait voir les dieux du stade danser le French Cancan. Dans François, l'animateur et ancien rugbyman a déclaré avec véhémence ne plus pouvoir supporter les calendriers des joueurs français, avant de surenchérir que les rugbymen ne sont plus des sportifs mais des danseuses du Crazy Horse. Pas de réaction pour l'heure du côté du stade français ou des dirigeants du Moulin Rouge. Enfin, l'homosexualis Discothecus va fermer. Cette boîte de nuit réputée de Rahat Loukoum en Judée est placée en liquidation judiciaire. En difficulté financière depuis la mort du Christ, le club ne s'est pas relevé de la chute de fréquentation liée à la fin des scénettes. Rappelez-vous, ce sont ces fameuses soirées à thème où Jésus, habillé en superstar, partageait son corps avec une douzaine d'apôtres avant que ces derniers ne boivent son sang. Le propriétaire de la discothèque, César Marcel, a quant à lui été placé en détention provisoire par le tribunal de commerce de Baklawa pour pratique sodomite et pacte avec le diable. Judas Makrout sera l'avocat général et l'Empire romain se portera partie civile.
Eh bien, merci Romain pour cette chronique de désinformation. Quoi qu'il y a quelques nouvelles, on aimerait bien qu'elles soient vraies pour de vrai. Ce serait quand même beaucoup plus rigolo. On passe tout de suite donc, enfin, on termine cette heure dédiée aux femmes et à la femme. Et on va passer tout de suite donc à l'heure de l'homme.